Quelques bibles au fond de la salle, si vous n'avez pas de bible. 1 Timothée, chapitre 6, je vais lire à partir du verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, qui fasse le bien, qui soit riche en œuvres bonnes, qui aient de la libéralité, de la générosité, et qui s'amasse ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie.
Donc malheureusement pour vous, vous allez faire les frais de mes débuts dans le maniement de la technologie du PowerPoint. Donc on vient de m'expliquer comment ça fonctionne. J'espère que ça va vraiment fonctionner. Alors, bon, bah, allons-y. Donc on va voir. Déjà c'est un bout de... Voilà. Bon. Donc alors, c'est qui est ce personnage? Voilà. Donc les petits-enfants sont partis. Mais les grands-enfants sont toujours là, et c'est en effet Picsou, donc l'oncle de Donald Duck, et qui est un peu le symbole du riche, mais aussi du riche avare. Alors vous l'aurez compris ce matin, déjà à la lecture du texte, nous allons parler des riches. Alors je suppose que le choix de ce texte doit vous sembler peut-être un petit peu bizarre. Alors pas le fait que j'ai choisi un texte qui parle gros sous, puisque en tant que trésorier de l'Église, c'était fatal, il ne fallait pas me laisser prêcher. Mais ce qui doit plutôt vous étonner, c'est le choix d'un texte qui s'adresse aux riches. Alors si l'Église se trouvait à Monaco ou Saint-Tropez, on pourrait comprendre. Mais la Garenne, c'est quand même pas tout de même Neuilly. Alors en fait, je pense que nous sommes concernés par ce texte, et je vais essayer de vous en convaincre en faisant deux remarques à ce sujet. La première remarque, c'est que la notion de richesse est une notion toute relative. Et oui, qu'est-ce que c'est qu'un riche? La plupart d'entre nous ne sont pas forcément riches ici en France. Mais par contre, si vous allez vous installer au Cambodge, au Burkina Faso, eh bien vous apercevrez que votre statut changera. À l'échelle mondiale, n'oublions pas que nous faisons partie des nantis. Mais sans même quitter notre pays, sommes-nous si sûrs de ne pas être riches par rapport à pas mal de nos compatriotes? Dès lors que l'on a davantage que la simple nourriture et le vêtement, on peut déjà parler d'une certaine aisance. Donc, comparé à certaines personnes, et à beaucoup de personnes, nous sommes riches. Et ce statut nous confère assurément des devoirs. Seconde remarque, le matérialisme. Alors, je sais que la richesse et le matérialisme sont deux choses différentes. Mais le matérialisme accompagne souvent la richesse. Et la France n'échappe pas à cette règle. Notre pays est un pays riche, mais c'est aussi un pays matérialiste. Alors, être matérialiste, ça signifie quoi? Bah, sans entrer dans le détail, on peut dire que ça consiste à faire des biens son centre d'intérêt. C'est donner au bien matériel la première place dans notre vie. Or, quelle est pour la plupart de nos concitoyens, quel est leur but? Quel est notre but? Eh bien, c'est de posséder. Alors, il ne faut pas caricaturer, mais essentiellement, on souhaite posséder la dernière PlayStation, la dernière BMW, un écran plat, etc. Notre monde nous vante un bonheur qui s'obtiendrait en achetant des biens. Consommer nous rendrait heureux. Alors dernièrement, le publicitaire Jacques Séguéla a déclaré, après il l'a regretté je crois, mais il a déclaré, si à 50 ans on n'a pas une Rolex, c'est qu'on a quand même raté sa vie. Donc je me suis aperçu que je n'ai pas encore réussi ma vie, mais il me reste quand même quelques années avant 50 ans. Donc désormais, notre monde se divise en deux. Les riches, d'un côté, et ceux qui aimeraient bien le devenir, de l'autre. Et nous, les chrétiens, nous subissons l'influence de cette pensée matérialiste. Donc, ces deux remarques m'amènent à croire que ce texte a des choses à nous apprendre. Voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi. Désolé. Voilà. Donc, alors pour essayer de le voir ce matin, je vous propose une réflexion en trois temps. Donc, le premier temps, c'est la fausse richesse et les dangers qui l'accompagnent. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais bon, mais il suffit d'écouter. Donc, premier temps, la fausse richesse et les dangers qui l'accompagnent, c'est le début du verset 17. Deuxième temps, la vraie richesse et les bienfaits qu'elle procure, la suite du verset 17. Et troisième temps, les obligations liées à la richesse matérielle, verset 18. Donc, voilà, commençons par la fausse richesse et les dangers qui l'accompagnent. Donc, je vous invite à suivre dans votre Bible le début du verset 17. « Enjoins à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » L'apôtre Paul, rappelle deux réalités. D'une part, il affirme que la richesse matérielle est trompeuse, car incertaine. Et d'autre part, il rappelle que la richesse matérielle s'accompagne de dangers. Alors, la richesse matérielle, une fausse richesse. Donc, dans le verset 17, Paul parle de richesses incertaines. Il y a d'autres traductions qui nous disent des richesses instables ou précaires. L'idée est claire. La richesse matérielle est une chose changeante et fragile. On ne peut donc pas s'appuyer dessus. La richesse matérielle est précaire parce que les aléas de la vie font qu'une personne riche peut se retrouver du jour au lendemain ruinée. La dernière crise boursière a ruiné bon nombre de personnalités, parmi lesquelles nous trouvons Enrico Macias. Alors, il semblerait que le célèbre chanteur Enrico Macias fasse partie des victimes de la crise boursière. Et même sa villa dans le sud de la France est menacée d'une saisie. Donc, c'est affreux. Mais je crois qu'il lui reste quand même quelques appartements sur Paris. Donc, nous sommes rassurés. Mais tout de même, les guerres, les accidents de santé, les escroqueries, le chômage, tout cela peut mettre brutalement fin à la richesse. Mais même sans parler de ces accidents de l'existence, la richesse passera inexorablement, tout comme le monde passera, et surtout tout comme notre propre vie passera. Les riches n'emporteront pas leurs possessions avec eux le jour de leur mort. Alors, une célèbre expression qui dit « on n'a jamais vu un linceul avec des poches ». Paul l'a rappelé quelques versets plus haut d'ailleurs, 1 Timothée 6, verset 7, nous n'avons rien à porter dans le monde, comme d'ailleurs, nous n'en pouvons rien à emporter. Mais en plus d'être incertaine, la richesse matérielle s'accompagne aussi de dangers. Alors quels sont les dangers qui sont liés à la richesse? Eh bien, dans notre texte, Paul cite deux dangers. Celui de devenir orgueilleux et celui de mettre son espérance dans les richesses matérielles. Alors, l'orgueil, tout d'abord. Le riche est notamment tenté de mépriser plus pauvre que lui. Alors, nous avons une célèbre caricature comique du riche qui nous est donnée... il faut revenir en arrière. Bon, ça devient compliqué. Qui nous est donnée dans le film... Voilà. La folie des grandeurs. C'est un film quand même... bien connu. Et alors le personnage que nous voyons là, c'est le personnage de Don Salluste, qui nous montre un riche cupide, orgueilleux et surtout sans scrupules. Et quand on attire son attention sur la délicate situation du peuple, qui lui est terriblement pauvre, il répond « c'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches ». Donc vous aurez goûté la qualité de l'argument, c'est très fort. Alors heureusement, tous les riches ne sont pas des Don Sallustes. Mais pour autant, la richesse peut s'accompagner d'un orgueil moins affiché, mais tout aussi réel. Bah oui, forcément. Si je suis devenu riche et pas eux, ce n'est pas par hasard. Dieu a vu que j'étais meilleur qu'eux, plus compétent, plus travailleur, plus rigoureux. Dieu m'a accordé tous ses bienfaits, mais parce que je le vaux bien. Alors, ce type de raisonnement est évidemment faux. La Bible ne met pas en équation la valeur d'un homme et les bénédictions qu'il reçoit. Et à cet égard, le cas de Job est très parlant. Job était intègre et droit, et il craignait Dieu. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Et pourtant, cet homme s'est retrouvé ruiné du jour au lendemain. Il a connu la pauvreté extrême. Quand Dieu bénit un homme, même sur le plan matériel, il le fait en vertu de sa grâce. Donc l'orgueil vis-à-vis des pauvres, mais l'orgueil vis-à-vis de Dieu menace aussi le riche. En fait, croire que nos possessions sont exclusivement le fruit de notre travail ou de nos qualités, c'est être orgueilleux. Car nos réussites sont le fruit des capacités que Dieu nous a accordées. Nos réussites n'existent que parce que Dieu les a permises. Il est vrai que nous avons notre part de responsabilité, mais celle-ci n'échappe pas à la souveraineté de Dieu. Donc le premier danger, l'orgueil. Le second danger lié à la richesse est celui qui consiste à se confier en elle. Et oui, pourquoi rechercher l'appui de Dieu quand tout nous semble aller pour le mieux? Quand il nous semble que notre vie est à l'abri de toute surprise. Mais se fier dans ses richesses plutôt qu'en Dieu, c'est tout simplement de l'idolâtrie. C'est mettre sa confiance dans les dons reçus plutôt que dans le donateur. Je te fais confiance, Seigneur, je sais que tu pourvoiras mes besoins, mais bon, je suis quand même bien content de pouvoir aussi compter sur mon livret A. Alors souvenons-nous que notre vie est entre les mains du Seigneur. Elle n'est pas dans celle de notre banquier ni de notre employeur. Voilà pour la fausse richesse et ses dangers. Mais venons-en maintenant à la vraie richesse. Voilà. Alors, la vraie richesse et les bienfaits qu'elle procure, c'est la suite du verset 17. Donc voyons d'abord quelle est cette vraie richesse. Puis nous verrons l'attitude à avoir vis-à-vis des bienfaits que Dieu nous accorde. Alors la vraie richesse, donc je vous invite à lire la suite du verset 17, enjoint à ceux qui sont riches de mettre leur espérance en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. La vraie richesse, c'est de pouvoir se confier en Dieu. La vraie richesse consiste à pouvoir mettre son espérance en Dieu et non dans les biens matériels. Pouvoir construire nos vies avec Dieu pour fondement. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette richesse-là est donnée à tous les enfants de Dieu. Et pourquoi mettre notre confiance en Dieu? Eh bien parce que ce verset nous rappelle que Dieu nous donne tout largement. Dans cette affirmation se trouvent trois réalités. La première, c'est que c'est Dieu qui donne. C'est lui le grand donateur par excellence. Dieu est à l'origine de tout ce que nous recevons. La seconde réalité, c'est que Dieu donne tout, insiste Paul. Il ne se contente pas de donner seulement des bénédictions matérielles. Le mot « tout » qu'emploie Paul va bien au-delà des seuls biens matériels. Dieu connaît tous nos besoins, qu'ils soient matériels, mais aussi affectif, spirituel. Et il peut y répondre selon sa sagesse. D'ailleurs, ne l'a-t-il pas déjà fait parfaitement en nous donnant son Fils? L'essentiel nous a déjà été donné à la croix. Et pourtant, Dieu continue à donner. Et c'est la troisième réalité citée par Paul. Dieu donne largement. Dieu n'est pas à pingre, il ne regarde pas la dépense. Sa bonté a pour corollaire sa générosité. Donc la vraie richesse, c'est se confier en Dieu. Mais voyons maintenant la finalité des bienfaits que Dieu nous accorde. Parce que on peut se confier en Dieu, et en plus, il se trouve que nous recevons aussi des bienfaits de sa part. Verset toujours 17b, Dieu nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Dieu nous accorde des bienfaits, et il nous les accorde pour que nous en jouissions, nous dit le texte. Alors d'une certaine manière, c'est un appel à prendre du bon temps. Nous devons profiter des bénédictions que Dieu nous donne. Nous devons les savourer. L'apôtre Paul n'oppose pas au matérialisme de certains riches une sorte d'ascétisme mystique. Face à ceux qui se confient dans les biens terrestres, Paul ne nous demande pas de rejeter les possessions matérielles. En fait, Dieu ne nous demande pas de mépriser ou de fuir les biens de ce monde. Au contraire, Dieu souhaite que nous profitions, que nous jouissions des biens et des choses qu'il nous donne. Parce que les choses et les biens de ce monde ne sont pas mauvais en eux-mêmes. La matière ne nuit pas à la spiritualité. Paul l'a d'ailleurs déjà affirmé dans cette même épître, chapitre 4, verset 4. « Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter. » Seul l'usage que l'on fait de nos biens et la place qu'on leur donne dans nos vies peuvent être mauvais. La vraie richesse, se confier en Dieu et savoir aussi profiter de ses bienfaits. Alors pour finir, voyons quelles sont les obligations liées à la richesse matérielle. Il s'agit du verset 18. Donc je lis le verset 18. « Que les riches fassent le bien, qu'ils soient riches de belles œuvres, disposés à partager, solidaires. » Alors tout d'abord, une brève remarque préliminaire. Pour Paul, le riche a sa place dans l'Église. L'apôtre n'exige pas des riches qu'ils se dessaisissent de leurs biens. Il ne les appelle pas à faire vœu de pauvreté. Car on peut être chrétien tout en étant riche. Et si le riche ne doit pas s'enorgueillir de la richesse, il ne doit pas non plus en avoir honte. Par contre, le statut de riche confère des obligations spécifiques. Paul rappelle aux riches leur mission, et il leur indique aussi une double méthode pour s'en acquitter. Alors d'abord, voyons la mission qui incombe aux riches. Les riches sont appelés à faire le bien et à être riches de belles œuvres. Alors vous me direz que cet appel n'a rien de spécifique aux riches et qu'il est valable pour tous les chrétiens, quelles que soient leurs conditions sociales. Vous aurez raison. C'est exactement ça. Tous les chrétiens sont appelés à la fois à pratiquer le bien et à être riche de belles œuvres, c'est-à-dire en fait à accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes tous appelés à agir en conformité au commandement du Seigneur. Mais la spécificité du riche réside dans l'outil qu'il a à sa disposition pour s'acquitter de cette mission commune à tous les chrétiens. Et cet outil, c'est bien entendu sa richesse. Le riche est appelé à mettre sa richesse au service de Dieu et des autres. Le riche est présenté ici davantage comme un intendant que comme un propriétaire. Il est comme un simple dépositaire de richesses destiné à profiter aussi à toute l'Église, et même au-delà. Alors tout à l'heure, nous avons vu que Dieu nous appelait à jouir des biens qu'il nous accordait. Ici, nous comprenons que cette jouissance ne doit pas être égoïste. Ce que Dieu a en vue, c'est que le riche profite de ses biens tout en faisant profiter les autres. Jouir des biens que Dieu nous donne, oui, mais une jouissance partagée. Une jouissance qui associe les autres et qui ne se vit pas à l'écart des autres et encore moins à leur détriment. Voilà pour la mission. Voyons maintenant la double méthode que propose Paul pour faire le bien lorsqu'on est riche. Cette méthode tient en deux termes, partage et solidarité. Alors, partage et solidarité, ça pourrait être le slogan de Lutte ouvrière ou de la Ligue communiste révolutionnaire, mais il n'en est rien. Il s'agit de la double méthode exposée par Paul. Les riches chrétiens sont appelés au partage et à la solidarité. Alors en fait, le partage, c'est une attitude que je qualifierais de logique. Puisque nous avons tout reçu de Dieu, rien ne nous appartient vraiment, pas même nos richesses. Alors d'une certaine manière, nous sommes un peu dans la même situation qu'un enfant qui se voit confier une petite somme d'argent pour aller faire une course. Vous savez, le papa qui donne au petit garçon 1 euro pour acheter une baguette pour toute la famille. Et le papa ajoute qu'avec la monnaie, il pourra s'acheter un bonbon. Alors, quelle sera la réaction du papa si au retour, le petit garçon lui explique que tout bien réfléchi, il a préféré tout dépenser en bonbons et qu'il n'y a pas de baguette pour la famille? Eh bien, d'une certaine manière, c'est pareil pour nous. On se doit d'user de nos biens en tenant compte de la volonté du donateur divin. Donc le partage. Enfin, le riche chrétien doit aussi être solidaire. Parce qu'il se trouve que le riche chrétien est chrétien avant d'être riche. Il fait partie de la famille de Dieu avant de faire partie du Gotha. Il fait partie de l'Église avant de faire partie de la classe bourgeoise, pour adopter un vocabulaire un petit peu marxiste. Or, l'appartenance à la famille de Dieu implique la solidarité. Quelle image déplorable donnerait une famille qui ne serait pas solidaire? Alors pour nous, quel usage faisons-nous de nos biens et de nos richesses? Que faire concrètement? Eh bien, par exemple, aider financièrement un frère ou une sœur dans le besoin, partager notre maison en exerçant l'hospitalité, partager notre voiture en véhiculant gratuitement, bien sûr, nos frères et sœurs, mais donner aussi en dehors de l'Église. Quel beau témoignage! Donner de l'argent aux œuvres caritatives qui luttent contre la pauvreté. Savez-vous que pour 35 euros par mois, vous pouvez parrainer un enfant du tiers-monde, et en payant seulement 35 euros par mois, cet enfant peut bénéficier d'un repas équilibré par jour, d'un suivi médical, d'une scolarisation et aussi d'une instruction biblique. Donc, si vous êtes d'ailleurs intéressé, à la fin du culte, vous pouvez venir me voir et je vous donnerai le nom de l'association qui notamment fait ça. Mais on peut aussi donner de l'énergie et du temps pour les autres. On peut participer à la banque alimentaire, on peut adhérer à une association caritative, on peut soutenir des projets comme celui au Burkina Faso. En fait, ce ne sont pas les possibilités qui manquent pour vivre ce commandement de partage et de solidarité. Alors, il nous faut conclure. Paul termine ce passage en invitant au verset 19, je cite, « à nous amasser un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Paul conclut en nous rappelant qu'il existe deux mondes. Le monde présent et le monde à venir. Il se trouve qu'on peut être très riche matériellement dans le monde présent et très pauvre spirituellement pour le monde à venir. Et ce qui compte, c'est justement ce monde à venir. Le chrétien se doit de rechercher la vraie richesse, celle qui compte pour le monde à venir. Cette vraie richesse consiste à mettre son espérance en Dieu et en Dieu seul. Et elle consiste à pratiquer les belles œuvres. C'est ainsi que nous saisirons la vraie vie, nous dit Paul au verset 19. Alors ça ne signifie pas que nous allons gagner notre salut en pratiquant l'aumône. Il s'agit simplement pour nous de montrer concrètement que nous avons reçu cette vie éternelle. Dieu veut nous voir engager notre responsabilité et notre liberté dans l'utilisation de nos possessions. Il s'agit tout simplement de montrer que nos valeurs ont changé. Montrer que pour nous, la vraie richesse ne se trouve plus dans les biens de ce monde. Montrer que pour nous, la vraie richesse se trouve en Dieu seul. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour tous tes dons. Nous avons tellement reçu de toi.